Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sommes déjà au mois de décembre et l'année 2019 touche à sa fin. En revanche, la saison culturelle est loin de son terme, décembre étant même une période de forte activité dans ce domaine, et ce pour toutes les disciplines, la musique entre autres. Il va donc y avoir beaucoup d'événements d'ici le nouvel an, et la semaine qui s'annonce va donner le rythme en la matière. Vous allez vous en rendre compte tout au long de cette émission, pour laquelle m'ont rejoint autour de la table du grand studio de Radio Présence Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Avec eux, j'accueillerai tout à l'heure, mais au téléphone, l'invité d'honneur de ce numéro, Gérard Karagosyan, vice-président de l'Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées, une association qui organise depuis 1997, quelques temps avant Noël, à la Lograin, un concert caritatif. Cette année, il a lieu dimanche 15 décembre à 19h et il va réunir, comme à chaque fois, un plateau de musiciens exceptionnels. Nous vous en dirons plus sur eux et sur les programmes qu'ils vont jouer en seconde partie d'émission. Dans les médias, nous allons revenir comme de coutume sur l'actualité musicale de la semaine dernière. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et comme je vous l'avais annoncé lors de notre précédente émission, nous allons revenir aujourd'hui sur la récente 5e édition de Musique au Palais, qui s'est tenue au Palais Niel de Toulouse le week-end des 23 et 24 novembre. Cette année, il y avait un thème visage du romantisme allemand, ce qui ouvrait bien des possibilités quant au contenu de la programmation. Serge Krzyzewski, le président et directeur artistique du festival, avait choisi de parcourir durant deux jours toute cette période de ses prémices avec Mozart et Beethoven, à ses derniers feux avec Mahler, en passant bien sûr par Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner et quelques autres, dont Franz Liszt, compositeur hongrois certes, mais qui vivait à l'époque de l'Empire austro-hongrois. On a ainsi eu droit à des formes très diverses, le trio avec piano, le quatuor à cordes, la sonate, le lead, et j'en oublie sans doute, une très belle programmation donc avec de très bons interprètes. Et c'est là que je voulais en venir, parce que la formule de Musique au Palais réunit des musiciens professionnels, des élèves de conservatoires nationaux et de grands amateurs. Il y en a eu beaucoup qui ont défilé au cours de ces deux journées lors des 5 concerts qui ont été donnés, 3 le samedi et 2 le dimanche. Alors je ne vais pas détailler toutes les œuvres qui ont été jouées, je vais me contenter de rappeler quels sont les musiciens qui se sont produits samedi. D'abord l'ensemble Eos, un quatuor à cordes formé de musiciens de l'Orchestre National du Capitole, pour ne pas les citer, Laura Jaillet, Laura Ensminger, Aurore Dassès et Alexandre Dalbigo. Puis ont suivi les jeunes pianistes Angélique Trajan et Vincent Martinet, ainsi que la violoniste Floriane Naboulet, 3 Toulousains aujourd'hui. Aujourd'hui élève des CNSM de Lyon et Paris, et promis, je le pense, à de belles carrières. On y reviendra. On a aussi entendu de grands amateurs, donc Anne Marty et Jean-Pierre Salmona au piano, ce dernier étant d'ailleurs un fidèle parmi les fidèles du festival. Il y a eu également Pascal Bazillou à la clarinette, Sarah Netter à l'alto, Antonin Udrizi au violoncelle, le trio Garonne, un trio avec piano formé par Olivier Marsal, Amaury Barguin et Pierre Morel. Je n'oublie pas non plus la violoniste Estelle Bartolucci et le contrebassiste Michel Renaud, une actuelle et un ancien de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Bref, c'était un beau mélange de générations et de talents, chacun dans leur registre respectif. Et je dois dire que les amateurs et les élèves de conservatoires nationaux se sont montrés tout à fait à la hauteur de leurs glorieux aînés, les professionnels qui se sont produits à leur côté, en trio, en quatuor, en quintette, en solo. Il y en a eu, là encore, pour tous les goûts. La qualité générale de tous ces musiciens était vraiment impressionnante. Enfin, il y a eu le grand moment de cette première journée, le récital qu'a donné le pianiste Jonas Vito en 3e concert de l'après-midi, extraordinaire de virtuosité technique et d'émotion dans l'exécution du redoutable et très intelligent programme qu'il avait préparé en lien avec le thème du festival 2019. Rendez-vous compte, il a joué en suivant la sonate pathétique et les 6 variations opus 34 de Beethoven, puis Funérailles de Franz Liszt, cette pièce que le compositeur hongrois avait écrite en hommage à la mémoire de son ami Chopin. Après cela, il a interprété les Scènes de la forêt de Schumann et les Rhapsodies opus 79 numéro 1 et 2 de Brahms. plus de 2 heures de très belle musique romantique allemande jouée de façon magistrale par ce pianiste qui, je le crois vraiment, mériterait d'être beaucoup plus connu et médiatisé qu'il ne l'est. Pour vous en convaincre, je propose qu'on écoute tout de suite Jonas Vito dans une interprétation de la Rhapsodie opus 79 numéro 1 de Johannes Brahms. La Rhapsodie opus 79 numéro 1 de Johannes Brahms, interprétée par Jonas Vito, une des pièces qu'il a jouées lors de son magnifique et très applaudi récital en clôture de la journée du samedi. Et le dimanche, me direz-vous, qui et quoi a-t-on entendu au Palais Niel ? Là, je vais passer la parole à mon camarade Serge Chosy, parce qu'il était présent pour les deux concerts de cette seconde journée. Alors Serge, rappelez-nous les musiciens et les œuvres qui étaient programmées dimanche après-midi.
Eh bien, là aussi, il y avait une palette impressionnante de compositeurs, donc qui toujours peuvent être classés dans le thème général de ces musiques au palais. Mais il y avait deux concerts bien différents tout de même. Un premier de musique purement instrumentale et un deuxième, un concert vocal, un récital de chant. Donc le premier concert, qui a eu lieu à partir de 15h30, s'intitulait Féerie, forme, contraste. Et là, on a entendu des œuvres de Robert Schumann, Max Bruch, Félix Mendelssohn et Franz Liszt. Et puis en deuxième partie, Johannes Brahms. Alors, les musiciens qui ont participé à ce premier concert sont, comme pour les concerts du samedi, à la fois des musiciens de grands amateurs et puis de grands professionnels. Donc, on avait sur le plan des musiciens, il y avait de nouveau, comme la veille, le violoncelliste Antonin Udrisier et la pianiste Anne Marty, qui ont donné du Schumann et du Bruch, donc très bien, avec beaucoup de passion. Et puis ensuite, nous avons retrouvé Jean-Pierre Salmona, vraiment un grand complice, on peut dire, de ce festival. Je crois qu'il était là dès le début.
Depuis les débuts, en 2015.
Et il revient systématiquement, qui lui a donné alors des œuvres virtuose, hein, vraiment. Et là, il a impressionné par ses qualités techniques, hein, en particulier dans la redoutable ronde des lutins de Liszt, vraiment, et l'arabesque très romantique de Schumann. Et ensuite, donc, on a eu quand même une œuvre au bord d'une source qui a été donnée par Vincent Martinet de nouveau, ce jeune pianiste vraiment très talentueux et auquel on peut s'attendre à une belle carrière, hein, parce qu'il a vraiment des qualités, pas seulement techniques, mais expressives, très impressionnantes. Et on retrouvait Vincent Martinet en deuxième partie avec le fameux quatuor avec piano numéro 1, l'opus 25 de Johannes Brahms. Et là, il était entouré de toutes jeunes musiciennes.
Camarades du CNSM de Paris.
Exactement, avec notamment Floriane Naboulet au violon, qui n'avait pas 20 ans. Puis Adèle Ginesté, alto, et Romane Bestot, violoncelle. Vraiment trois jeunes filles formidables. Les quatre musiciens ont donné une interprétation, mais d'une passion, d'une énergie, une véritable bourrasque sur le palais Niel. Hein.
Et c'est ce qu'il faut dans cette œuvre en plus.
Ah, tout à fait.
Pour lui évidemment donner toute sa dimension, toute sa mesure.
Ah oui, oui, là, ben, c'est vraiment le romantisme absolu. Hein. Très impressionnant. Vraiment, ça a été, je crois, le top, l'apothéose de ce premier concert de dimanche. Et puis ensuite, il y a eu un récital d'une magnifique cantatrice qui mérite elle aussi d'être beaucoup plus connue, qui maintenant vit à Toulouse. Donc, on aura la chance de la revoir. Et puis, elle est déjà programmée d'ailleurs pour certaines œuvres. Il s'agit de la mezzo-soprano Victoire Bunel, qui a alors donné un programme intitulé « Chants de l'âme et chants d'amour », avec tout d'abord une première partie de Schumann Liszt au piano seul, hein, puisqu'elle était accompagnée par Nino Pavlenichvili, bon, qui est une accompagnatrice qu'on connaît bien à Toulouse.
Hein. Et bien au-delà des frontières toulousaines d'ailleurs.
Hein, bien sûr, bien sûr.
Elle se produit un peu partout, mais effectivement à Toulouse.
Mais à Toulouse, elle est vraiment.
On la voit de plus en plus. On l'entend de plus en plus.
Très connue et très utilisée, je dis, entre guillemets. Donc, cette première partie avec du Schubert, avec le fameux Andy Music, etc. Et puis Gretchen am Spinnrad, Marguerite Rouet, qui a la réputation d'être le tout premier lead jamais composé, lead authentique, hein, pas mélodie. Ça, c'était très beau. Et puis avec les deux chants sublimes de Johannes Brahms, où l'alto de Laura Esminger a de nouveau accompagné donc ses deux camarades, c'était magnifique, vraiment très très beau. Et en deuxième partie, tout de même, c'était assez corsé, puisqu'il y avait les quatre leaders Eines fahrenden Gesellen, dans les chants d'un compagnon errant de Gustav Mahler, qui sont souvent chantés par des barytons d'ailleurs. Et là, elle a chanté ça avec beaucoup, beaucoup d'art, beaucoup de finesse et d'énergie aussi. Hein. Puis il y a eu de nouveau au piano, seul, la mort d'Isolde de Richard Wagner, mais tel que Franz Liszt l'a transposé pour le piano. Puis deux extraits des fameux Wesendonck-Lieder de Richard Wagner, avec Träume, dont Rêve, Im Treibhaus, dans la serre, qu'elle a magnifiquement chanté. Et puis, ça s'est presque achevé. Le programme avec deux leaders d'Hugo Wolf, vraiment grand compositeur de lieder, et là, avec un esprit, un humour vraiment extraordinaire. Et alors, je voudrais surtout insister sur la diction de cette chanteuse en allemand. C'était parfait.
Ah, c'est remarquable.
On comprenait absolument
vraiment,
tout.
Je ne sais pas si elle a fait des études en allemand poussées, mais en tout cas, c'était, elle a beaucoup le travaillé.
Elle a dû en faire.
Avec ses professeurs de chant.
Et la même belle diction en français, puisqu'il se trouve qu'elle a donné un bis. Et dans le bis, elle a voulu donc fêter le 150e anniversaire de la disparition d'un grand compositeur français qui est Hector Berlioz. Et elle a chanté La Villanelle, extraite des Nuits d'été. Et là aussi, avec une diction en français formidable, que l'on ne retrouve pas toujours parmi les cantatrices françaises d'ailleurs, hein, il faut le préciser.
On en parle souvent émission.
Donc vraiment, un très beau concert final de ce festival d'un week-end. Et je suppose que la musique au palais va se poursuivre, hein, puisque Serge Krichevski, qui en même temps présente d'ailleurs les œuvres qui sont jouées, avec beaucoup de culture, ce qu'on lui connaît
beaucoup
bien.
Des érudition, comme chacun sait.
Incroyable. Donc on peut s'attendre à une nouvelle session l'année prochaine.
Oui, au palais. Très belle édition, très fréquentée. Le concert de l'après-midi, dimanche, était archi plein. On a même refusé du monde, je crois.
Oui, exactement.
En tout cas, Emmanuelle Sirat, la fondatrice du festival qui a passé la main donc, et transmis le flambeau, peut être rassurée. Je pense qu'il a encore quelques belles années devant lui. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Vous avez cité Vincent Martinet. Il va se produire dans la saison bleue d'Alain Lacroix le 25 février aux abattoirs. Et il jouera un programme Schubert-Liszt. Il jouera à la Suisse des années de pèlerinage. Et voilà, Vincent Martinet, qu'on avait découvert il y a 2 ans.
Hein, oui,
qui maintenant, lui aussi, est un fidèle de ce festival.
Oui, et qui avait tout à fait impressionné dès sa première apparition. Hein.
C'est d'ailleurs à la saison bleue que j'avais découvert Angélique Trajan, la pianiste qui a joué le samedi. Voilà, donc on voit ces jeunes, elle est au CNSM de Lyon depuis cette année, on voit ces jeunes musiciens toulousains qui font leur chemin et qui pourraient aller loin, je pense, en tout cas pour quelques-uns d'entre eux.
Non, sans chauvinisme, on peut dire qu'à Toulouse, il y a vraiment une belle source de
grands musiciens. Oui, il y a une école, notamment
de
piano. Notamment piano, effectivement.
Oui, oui.
Hein, remarquable, mais pas seulement, hein, parce que les Zadig dont on a parlé, le violoncelliste et le violoniste, ils sont aussi passés par le conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Je voulais dire aussi que Nino Pavlenichvili, la pianiste qui a accompagné Victoire Bunel lors du dernier concert de ce festival 2019, se produira avec Anaïs Constant, toujours dans le cadre de la saison bleue, le 28 avril aux abattoirs. Et bien pour faire entendre une nouvelle fois la très belle voix de la mezzo-soprano Victoire Bunel, nous allons l'écouter maintenant dans une interprétation d'un lied de Robert Schumann.
Nicht begraben, will ich weinen.
Extrait d'un lied de Robert Schumann chanté par Victoire Bunel, accompagné ici par la pianiste Sarah Ritorcelli. Victoire Bunel qui fait partie de la distribution de Yenoufa, l'opéra de Janáček qui sera donné en mai au Théâtre du Capitole. Donc on la reverra dans les prochains mois à Toulouse. Il va être encore question de voix puisque nous allons maintenant revenir sur Ariodante, l'opéra de Handel donné en version concert lundi à la Lograin par les musiciens du Louvre de Marc Minkowski. C'était dans le cadre de la saison des grands interprètes, et outre les musiciens du Louvre, il y avait bien sûr 7 chanteurs solistes, en tête desquels on retrouvait la mezzo Marianne Crébassa. Vous étiez présents tous les deux, Marie et Serge. Alors que vous inspirez cette version dirigée par Marc Minkowski de cette grande œuvre de Georg Friedrich Händel?
D'abord, c'était une version de concert, concertante donc, et que nous avons pu apprécier la partie bien sûr musicale et les voix, puisqu'il n'y avait pas ni de décor ni de costume comme à l'opéra. Et je crois que pour beaucoup de gens et le public, c'était la révélation d'une œuvre qui est rarement jouée de toute façon, puisqu'il y a beaucoup d'opéras de Handel, mais il faut les produire à l'opéra, c'est pas évident aussi si on veut faire une mise en scène. Donc c'était le contact avec une œuvre, bien sûr prétexte à beaucoup de virtuosité vocale, avec une intrigue qui est comme toujours dans ce répertoire assez convenu, mais qui permet de belles envolées, des airs très très virtuoses, et dans lesquels bien sûr on avait une distribution qui était dominée par Marianne Crébassa, la mezzo-soprano française, qui officienne le rôle d'Ariodante. Elle a été acclamée. En plus, elle est très à l'aise maintenant dans ce répertoire et dans ce rôle, puisque cette Ariodante fait l'objet d'une tournée qui passe dans plusieurs villes de France, dont Toulouse, Bordeaux, qui est allée à Paris. Donc, ils sont tous à l'aise dans cette œuvre. Ils en donnent une version qui doit beaucoup à Marc Minkowski, à la tête de son orchestre du Louvre, pour aussi la partie purement orchestrale, qui sait aussi faire rebondir le discours, qui sait diriger les chanteurs. Et je crois que le public, même si c'était très long, 3 heures de musique avec 2 entractes, le public a adhéré, même sans comprendre trop ce qui se passait, parce que là il n'est pas question d'avoir des surtitres en français. Et je crois que le public a aimé et que c'était à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre d'une telle production en concert, avec un orchestre et un chef qui sont chez eux dans ce répertoire de façon évidente.
Effectivement, il faut rappeler qu'il y a plus de 20 ans, les musiciens du Louvre et Marc Minkowski ont réalisé un enregistrement d'Ariodante.
En 1997, oui.
Donc, c'est une œuvre qui leur est familière.
Oui, hein. Avec Anne-Sophie von Hotter.
Voilà, Anne-Sophie von Hotter dans le rôle titre. Et là, vraiment, on a entendu un chef qui est, un expert en handelisme, si je peux employer ce terme, dans une œuvre, tout de même, il faut le rappeler, c'est un ouvrage anglais, puisqu'il a été créé à Covent Garden, à Londres, chanté en italien d'un compositeur allemand, tout de même. Ouvrage européen, s'il en est.
Non, mais quand on parle de l'Europe, il y a longtemps que l'Europe existe.
Surtout l'Europe musicale.
Oui, elle s'est bâtie là-dessus. L'Europe s'est bâtie sur la civilisation et la culture. Il est bon de le rappeler de temps à autre.
Oui, exactement. Et donc, alors en l'occurrence, il s'agissait bien, comme disait Anne-Marie, d'une version de concert, mais bien organisée. Et le plateau de la Lograin était divisé en deux. Il y avait la partie inférieure et à l'avant, il y avait l'orchestre. Quand même un orchestre copieux. Un orchestre d'une quarantaine de musiciens, hein, ce qui est quand même confortable, hein, pour cette musique. Et puis la partie arrière, surélevée, qui est une sorte de scène dans laquelle les chanteurs jouaient le jeu en quelque sorte. Hein. Et lorsqu'ils avaient un air soliste à délivrer, ils venaient vers l'avant, ils venaient près du chef, et là ils chantaient leur air. C'est traditionnel, c'est un peu une convention dans ce type d'opéra. Et puis il faut se rappeler que les opéras de Handel, c'est l'apothéose de ce qu'on appelait l'aria da capo. Aria da capo, c'est un air dans lequel on se répète. Alors si c'est chanté sans imagination ou sans intelligence, ça peut être très ennuyeux.
Oui.
Ça peut être très ennuyeux.
Et ça là, l'est parfois.
Et là, on ne s'est pas ennuyé une seconde. Tout simplement parce que tous les chanteurs étaient aguerris à ce style d'aria da capo. C'est-à-dire que quand il y avait la répétition, eh bien, ils ornementaient, ils changeaient les choses. Donc, on n'entendait pas deux fois la même chose. C'était toujours fécond, toujours intelligent et imaginatif. Ça, c'est très important. Et donc, il faut aussi reconnaître qu'il s'agissait là d'une distribution vocale de la jeune génération des chanteurs. Hein. Ils étaient tous très jeunes. Hein. Donc, la basse britannique James Platt qui fait le roi d'Écosse, Anna Maria Labin qui est suisse, qui chantait le rôle de sa fille, Ginevra, et puis son amie donc Dalinda a été chantée par une soprano franco-allemande, Caroline Gested. Oh, très bien, Paulinès, qui est le méchant de l'intrigue, était un contre-ténor, et là c'était assez amusant d'entendre ce rôle noir chanté avec un timbre clair. Vraiment, c'était un paradoxe tout à fait amusant. Et puis un excellent ténor italien aussi, Valerio Contaldo, mais évidemment dominé le rôle titre avec la grande Marianne Crébassa, on peut dire la grande Marianne Crébassa, qui succédait en quelque sorte au créateur qui à l'époque était un castrat, Giovanni Carestini, et qui devait sûrement avoir des possibilités vocales impressionnantes d'après ce que l'on juge sur les airs multiples qu'il a chantés. Et donc en l'occurrence, Marianne Crébassa a atteint deux sommets, là je ne peux pas m'empêcher de les citer. Le premier, c'était un véritable feu d'artifice, un air d'amour, un enthousiasme, con l'Ali di Costanza, au premier acte d'Ario Dante, où elle a vraiment fait exploser le public. Il n'avait pas applaudi jusque-là pour maintenir la continuité de l'œuvre, mais là vraiment, ce n'était pas possible de se retenir. Ça a été vraiment une ovation incroyable. Et puis au deuxième acte, le contraire, l'opposé, un air écrasé de douleur qui s'appelle Scherza in Fida, et là où le temps s'arrête, hein, il y avait une émotion. C'était impressionnant, le silence qu'il y avait dans le public de la Halle aux Grains. Vous savez, il y a souvent des toux qui... Ben là, il n'y avait aucune toux.
Aucun... Un silence religieux.
Ah, un silence incroyable. C'était vraiment, vraiment un moment d'émotion extraordinaire. Donc, très très belle soirée qui fait plaisir lorsque de jeunes chanteurs comme ça se lancent dans une entreprise qui n'est pas aisée.
Marianne Crébassa, encore une musicienne non pas originaire de Toulouse, mais de notre région quand même, puisque...
Ah, oui, elle a fait ses
elle
études.
Elle est originaire de l'Hérault.
Oui.
Pour l'instant, dans sa carrière, on voit surtout des opéras de Mozart, beaucoup d'opéras de Mozart, puis quelques-uns de Verdi, de Puccini, de Rossini. Là, elle abordait un autre répertoire.
Ah, mais un répertoire donc, dans lequel elle est très à l'aise.
Puisque nous en parlons, nous allons écouter un extrait de l'enregistrement d'Ario Dante réalisé par les musiciens du Louvre de Marc Minkowski. Ce n'était pas que Marianne Crébassa, mais ça viendra peut-être un jour, il y en aura peut-être un nouveau. C'était avec Anne-Sophie von Otter. Il s'agit de l'acte 3 d'Opo Notte, Atra et Funesta.
Yeah.
Extrait de l'acte 3 d'Ario Dante de Handel, Dopo Notte, Atra e Funesta, interprété par les musiciens du Louvre et Anne-Sophie von Hotter. Le prochain concert de la saison des grands interprètes est programmé lundi 16 décembre à 20h à la Halograin et nous aurons le plaisir d'y retrouver l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon pour leur programme Liberta, constitué d'airs de concerts et d'opéras de Mozart. Fin de cette première partie d'émission, nous allons nous retrouver dans quelques instants en compagnie de Gérard Caragosian pour évoquer avec lui le concert de l'Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées. Restez bien à notre écoute, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
La seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et donc avec l'invité d'honneur de ce numéro, Gérard Caragosian, vice-président de l'Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées. Il est au téléphone avec nous. Bienvenue parmi nous. Alors, vous organisez votre traditionnel concert caritatif de fin d'année à la Halograin dimanche 15 décembre, avec comme d'habitude, deux grands musiciens et un très joli programme dont nous allons parler dans quelques minutes. Avant, je vais vous demander, pour nos auditeurs qui se poseraient la question, ce qu'est la raison d'être de l'Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées et quels sont les objectifs de ce concert du 15 décembre, les actions que vous soutenez avec les fonds que vous récoltez.
Alors, concernant l'Amicale des Arméniens de Toulouse, c'est une association qui a plus de 50 ans, qui a été créée par des anciens qui aujourd'hui ne sont plus là. Et cette association avait pour but en fait de réunir les Arméniens de la région, d'une part pour évoquer leur pays lointain qu'est l'Arménie, bien qu'étant français bien sûr, hein, mais aussi pour parler de choses autour du cinéma ou du théâtre, autour de la poésie, etc. Donc c'était un centre culturel en fait, dans lequel il y avait de temps en temps quelques manifestations, des films, des pièces de théâtre, des petits concerts, etc., avec une activité qui était au départ relativement réduite. Cette activité elle a un peu évolué dans la mesure où l'Amicale des Arméniens a été confrontée au séisme en Arménie en 1988, qui a fait, vous le savez, énormément de dégâts, et puis aussi, après 1991, donc l'écroulement de l'Union soviétique, l'Arménie est devenue indépendante. C'est un pays qui a énormément souffert en se séparant de l'Union soviétique, parce que c'était un pays complètement désorganisé, avec des problèmes sociaux, des problèmes de pauvreté, des problèmes de manque d'énergie, etc. Donc cette association, qui au départ était essentiellement culturelle, s'est un peu transformée et a aidé l'Arménie, enfin dans la mesure de ses moyens, hein, à un peu évoluer et à rendre la population un peu moins malheureuse à l'époque. Et puis on a eu aussi une vague de migration des Arméniens qui ont quitté l'Arménie, puisque l'Arménie s'est vidée de sa population pendant de nombreuses années. En ce moment, c'est en train de ralentir. Et beaucoup d'Arméniens sont partis en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Amérique latine, en Suède, etc., parce qu'en Arménie, on vivait très mal. Donc on a dû aussi faire face à cette vague de migration qui est arrivée en France pour aider des gens qui étaient en grande difficulté, avec des problèmes avec, bien évidemment, la préfecture, des problèmes de papier, des problèmes de logement, des problèmes d'alimentation, etc. Donc l'association a un peu évolué. Alors concernant ce concert, ce concert correspond à ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire qu'il y a 23 ans, on s'est posé la question à plusieurs, et entre autres avec le docteur Zadé Roustamian à l'époque, qui était chirurgien à Toulouse, on s'est posé la question de... On voudrait bien monter un événement pour faire un peu de finance et ainsi soulager les enfants d'Arménie, entre autres les enfants des rues, qui étaient récupérés à l'époque par Médecins Sans Frontières et qui partaient dans un établissement qui s'appelait Vardachen, dans la banlieue d'Yerevan. Et puis on s'est dit qu'on était français aussi, bien évidemment, et qu'on pourrait aussi aider les petits-enfants toulousains qui étaient en grande difficulté. Du coup, on a imaginé un événement, et comme moi j'étais un peu passionné de musique, on a parlé d'un concert. Et voilà, ce fut le premier concert en 1997 au Jacobin, où il y avait environ 250 personnes, pas plus. Et petit à petit, on est monté en puissance, et en 23 ans, on a pu réaliser à peu près 400 000 euros de bénéfices répartis entre notre région toulousaine et l'Arménie.
Petite curiosité, combien y a-t-il d'Arméniens ou de descendants d'Arméniens dans notre région ?
Alors, la population arménienne de la région, elle n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il y a des Arméniens comme moi. Moi, je suis issu, en fait, de l'immigration et du génocide arménien, hein, puisque mes parents sont arrivés après le génocide en France. Et moi, je suis né en France, j'ai fait mes études ici, etc. Mais je me suis toujours senti arménien. Et puis, il y a des Arméniens qui sont arrivée, je vous dis, après 1991. Alors, quand on regarde la composition de la communauté arménienne de la région, eh bien, on remarque que finalement, les Arméniens d'Arménie qui sont arrivés dans notre région représentent quasiment 50% de cette population.
Alors, vous avez parlé de la musique. Vous êtes passionné de musique et il y a une chose qui m'intrigue concernant l'Arménie, et je ne dois pas être le seul, c'est le nombre de grands musiciens, de grands instrumentistes, de compositeurs qu'a produit ce petit pays. Qu'est-ce qui explique ça? C'est vraiment une culture où la musique, la transmission, l'apprentissage musical tiennent une place très importante, prépondérante.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en Arménie, la musique, la poésie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a énormément de musiciens traditionnels ou de musiciens classiques. Et le fait que l'Arménie ait fait partie de l'Union soviétique, vous savez qu'en Union soviétique, la musique classique avait une place importante, puisqu'il y a toujours eu des académies extrêmement brillantes à Moscou ou ailleurs. Et donc, les Arméniens ont bénéficié un petit peu de cet engouement pour la musique classique de l'Union soviétique. Et comme les Arméniens avaient un penchant pour la musique, eh bien, ils s'y sont donnés à fond. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de musiciens qui, de par le monde, jouent et qui sont des gens qui sont d'origine arménienne. Il y a beaucoup de jeunes, entre autres.
Bien sûr, nous, on pense à Sergueï Khatchatryan, qu'on voit régulièrement à Toulouse, qui est un violoniste exceptionnel, tout jeune encore. Mais il y a aussi des jazzmen, Tigran Amassian, pour ne pas le citer.
Oui, alors Tigran Amassian est venu deux fois dans nos concerts pour se produire. C'est un musicien qui vit en Arménie aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un musicien un peu étonnant, qui est capable de jouer énormément de choses, qui est capable d'improviser, qui s'intègre dans de nombreuses musiques. Et c'est quelqu'un que l'on connaît personnellement et à qui on est très attaché.
Alors, on va se plonger maintenant dans le programme du concert du 15 décembre et qui va se passer en plusieurs temps, comme c'est l'habitude depuis déjà quelques années, je crois. Vous tenez vraiment à ce que la musique y soit représentée sous plusieurs formes, à savoir comme cette année, par le classique, le jazz et même les musiques traditionnelles de l'Est.
Oui, alors, on produit chaque année un livret et dans ce livret, on explique un petit peu pourquoi on a organisé ce concert et puis on a développé une charte parce que un jour je serai peut-être plus là et vraisemblablement et d'autres pourraient prendre le relais pour que ça puisse continuer. Et dans cette charte, on a écrit pas mal de choses. Et concernant la musique, en fait, ce que l'on a écrit, c'est que on souhaite produire des musiques du monde entier ou de genres différents. Mais on ne va pas vers la variété. Voilà ce que je peux vous dire. On reste dans le classique, le jazz et les musiques du monde. Et dans ce qu'on a écrit dans cette charte, on dit aussi que ce qu'on aime bien, c'est promouvoir aussi des jeunes musiciens, qui soient arméniens ou pas très connus, mais qui auront la chance un soir d'avoir un public relativement conséquent.
Alors quand on pense musique classique et Arménie, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celui d'Aram Khatchatourian. Le programme va lui être largement dédié lors de la première partie dite classique, donc avec un trio qui est formé pour l'occasion, si je ne me trompe, la pianiste musicienne.
Ce trio n'a jamais joué ensemble. Dans ce trio, il y a une pianiste absolument extraordinaire, qui est la petite protégée de Maria Joa Pires, qui s'appelle Lilith Grigorian, qui a joué à la Lohgren l'année dernière.
Avec Maria Joa Pires.
Voilà. Et donc, elle va faire une partie un peu toute seule. Et puis, il y aura Lilith avec Xavier Philippe au violoncelle. Et puis après, il y aura Lilith avec Jean-Marc au violon. Et on terminera par une valse de Khatchatourian en trio. Donc, c'est un programme assez complet. La partie classique va durer environ une cinquantaine de minutes.
Avec donc Jean-Marc et Xavier Philips, les deux frères, le premier étant un pilier du trio Wanderer que vous aviez reçu l'an passé.
Alors le trio Wanderer, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'en fait, la direction musicale de tous nos concerts, si vous voulez, je la fais avec le trio. Essentiellement avec Jean-Marc, mais Vincent Coq et Raphaël Pilloux participent aussi largement. Donc c'est le trio Wanderer qui nous a fait un peu décoller il y a une vingtaine d'années.
Alors, il y a 12 ans, les frères Philips avaient enregistré un CD avec le pianiste Emmanuel Strasser, un CD qu'ils avaient titré Impression et où l'on trouvait entre autres la sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel. On va en écouter le quatrième mouvement joué par les frères Philips.
C'est une excellente idée. Thank you.
La sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel, le quatrième mouvement vif avec entrain, joué avec entrain aussi par les frères Philips, Jean-Marc au violon et Xavier au violoncelle. Donc le 15, les frères Philips joueront en duo et en trio avec la pianiste Lilith Grigorian. Ils vont jouer surtout du cacciatorian, mais il y a un autre compositeur qui est au programme.
Oui, il y a un autre compositeur qu'on ne peut pas oublier, nous les Arméniens, qui est le révérend père Komitas. De son vrai nom, il s'appelait Sogomon Gevorki Sogomian. Et ce révérend père, en fait, avait collectionné des musiques traditionnelles qu'il a réarrangées. Pour les Arméniens, en fait, le révérend père Komitas, c'est un personnage absolument extraordinaire parce qu'il a justement recueilli des musiques traditionnelles et il les a transcrites. Donc il y aura une partie qui sera interprétée, qui contient des œuvres. Dans ces œuvres-là, il y en a une qui est importante pour les Arméniens, c'est Gurung. Gurung, c'est un oiseau qui migre, hein, parce que les Arméniens, vous savez, ont subi un génocide et ils ont dû migrer. Et donc quand Gurung va sonner dans la Logrin, je vous avoue que tous les Arméniens vont avoir le cœur qui va battre à 200 à l'heure.
Ouais, ils vont se recueillir sans doute en écoutant cette musique. J'ai écouté aussi en préparant cette émission, j'ai découvert un peu la musique de Komitas dont je connaissais le nom. Mais ouais. Il faut dire aussi que c'est un compositeur qui est une référence pour beaucoup de compositeurs d'aujourd'hui, de compositeurs d'avant-garde.
Oui, oui, absolument. Oui. Et le révérend père Komitas, d'ailleurs, vous savez, il est enterré en France.
Hein, oui, il est mort à Paris. Il est mort à Paris en 1935. Et je voudrais qu'on écoute sa musique, qu'on la découvre, parce que je pense que beaucoup ne la connaissent pas, ou la connaissent mal en tout cas. Une des œuvres qui sera jouée lors du concert du 15 décembre, c'est Tsiranitsar. Et on va en écouter une version pour piano et violon. Voilà, Tsiranitsar de Komitas, version piano et violon. Alors je crois que pendant le concert, ce sera piano et violoncelle.
Ouais. Tsiranitsar, en fait, c'est l'arbre, l'abricotier. Si vous voulez, l'abricot, c'est un peu l'emblème de l'Arménie. Ouais. Vous savez que c'est un fruit qui a été ramené par les croisés d'Arménie. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, l'abricotier.
Alors, en tout cas, ce morceau était vraiment sublime. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. En tout cas, on l'était tous là autour de la table dans ce studio. Et puis donc, cacciatorian, alors là, il va y avoir une quinzaine de pièces quasiment.
Oui,
on va balayer tout le répertoire cacciatorian presque.
Alors j'ai eu un peu peur parce que quand j'organisais le concert et quand Lilith avec Jean-Marc m'ont envoyé le programme, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est peut-être un peu trop copieux et j'ai failli faire un peu des coupes sombres là-dedans parce que je trouvais que ça faisait quand même beaucoup, hein. C'est de l'ordre de 50 minutes alors que le concert il y a une deuxième partie. Hein. Et puis finalement je trouve regrettable d'enlever des pièces de ce programme qui sont toutes magnifiques, donc on va laisser le programme tel qu'il est.
Mais ouais. Je pense qu'effectivement il fallait le laisser tel quel parce que bon, il y a beaucoup de morceaux qu'on connaît, bon, notamment la fameuse danse du sabre, ouais. Mais aussi il y a l'adagio de Spartacus,
ouais.
La danse des jeunes filles, la danse des jeunes garçons, et puis il y a la valse, la fameuse valse de Mascarade,
ouais.
Cette musique de scène dont Cacciatorian a fait ensuite une suite orchestrale, ça sera la seule pièce qui sera jouée par le trio.
Moi, quand j'avais invité Lilith avec Jean-Marc et Xavier, j'avais imaginé qu'ils allaient jouer en trio beaucoup plus. Et puis finalement, ils ont fait ce découpage-là. Mais je trouve que c'est bien parce que Lilith, aujourd'hui, c'est une petite étoile montante. Donc c'est bien qu'elle s'exprime seule.
Oui, oui.
Et après qu'elle joue avec Xavier, puis Jean-Marc et tous les trois, c'est finalement une bonne stratégie.
Les voir dans tous ces types de formations, eh bien on va écouter une version justement de la valse de Mascarade, une version transcrite pour trio, piano, violon et violoncelle, telle que celle qu'on entendra à la Lohengrin le 15. La tourbillonnante valse de Mascarade, la suite orchestrale d'Aram Khatchatourian, transcrite ici pour trio, piano, violon et violoncelle. La seule pièce que devrait jouer en trio Lilith Grigorian, Jean-Marc et Xavier Philips le 15 décembre à la Lohengrin. Et puis après ce trio, c'est un duo qui prendra la suite sur le plateau de la Halle, un duo de jazz, celui qu'ont formé il y a peu deux anciens élèves encore du CRR de Toulouse, le pianiste Rémi Panossian et le trompettiste Nicolas Gardel, deux jeunes musiciens mais qui font déjà chacun de leur côté une grande carrière nationale et même internationale, Gérard Caragosian.
Oui, oui. Alors, Rémi Panossian et Nicolas Gardel, je les avais écoutés dans un petit concert privé il y a quelques temps. Et puis bon, je connaissais Rémi depuis fort longtemps, je le suivais. Et je trouvais sympa d'avoir deux musiciens toulousains qui s'intègrent dans ce concert. Hein. Dans toutes les parties, si on regarde la première partie, il y a trois musiciens arméniens. Dans le duo face à face avec Nicolas, eh bien, il y aura un arménien. Et dans le dernier trio, il y aura aussi un arménien. Donc il y a des arméniens absolument partout, dans tous les styles de musique. Et Rémi et Nicolas ont produit un disque absolument merveilleux qui s'appelle Mirror. Et moi, je vous avoue que j'ai été scotché. C'est époustouflant de les entendre tous les deux. Une très grande complicité, un jeu magnifique et des sonorités très belles.
J'ai écouté aussi de nombreux extraits de ce CD qui est assez récemment sorti. Hein.
C'est récent, oui.
C'est très récent. Bah, écoutez, ici, c'est une mission dédiée à l'actualité musicale classique, mais comme nous ne sommes pas sectaires, et surtout parce que nous aimons le jazz et que Rémi Panossian et Nicolas Gardel sont deux excellents musiciens, nous allons écouter un extrait de cet album. C'est le morceau qui lui donne son nom, The Mirror. The Mirror, magnifique morceau éponyme du CD qu'ont récemment fait paraître Rémi Panossian et Nicolas Gardel. Ils seront donc face à face et en duo lors de la deuxième partie du concert du 15 décembre à la Lograin. Et il va y avoir une troisième partie. Et là, ce sont les musiques traditionnelles de l'Est qui vont être à l'honneur avec le trio d'Anne Garibian. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la composition de ce groupe et puis son répertoire, ses influences ?
Oui, alors Dan Garibian, c'est l'ancien chanteur-guitariste du groupe Bratz qui a tourné une trentaine d'années. Nous avions produit dans le cadre de nos concerts annuels Bratz par deux fois, voire trois. Et Dan Garibian, en fait, n'a pas pris sa retraite. Hein. Le groupe s'est disloqué. Ils sont disloqués, mais je veux dire, ils sont restés amis. Et Dan a remonté un trio. Et c'est plus facile de bouger en trio plutôt qu'avec cinq ou six musiciens. Et il a embauché deux jeunes. Il y a deux jeunes qui l'ont rejoint qui sont extraordinaires. C'est notre ami Antoine Girard à l'accordéon. Et surtout notre ami Convert Benoît qui est un excellent guitariste. Aujourd'hui, à ma connaissance, il fait partie peut-être des 4 ou 5 meilleurs guitaristes français. C'est un monsieur qui fait du jazz, qui fait du jazz manouche. Et au contact de Dan Garibian, tous les trois chantent. Alors ce sont des musiques de l'Est, des musiques de l'exil. Ils chantent en arménien, ils chantent dans d'autres langues, en romano, ils chantent en italien. Et on retrouve un petit peu Bratz.
Ouais, c'est ça, c'est le répertoire de Bratz. Hein. Enfin,
c'est un peu le répertoire de Bratz. Mais c'est pas tout à fait le répertoire de Bratz, il y a des choses différentes et la guitare de Benoît Convert apporte des choses absolument magnifiques.
Voilà, mais un programme extraordinaire, je trouve, entre le classique, le jazz et puis donc ces musiques traditionnelles de l'Est à la fin. Ça sera le dimanche 15 décembre à 19h à la Halle au Grain. Merci beaucoup Gérard Caragosian d'avoir été au rendez-vous.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis à bientôt, on va reprendre le cours de cette émission, il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on annonce et présente les traditionnels concerts de Noël que donne le chœur du Capitole. C'est samedi 7 décembre à 20h et dimanche 8 à 16h au Théâtre du Capitole. Et cette année, c'est Offenbach qui est à l'honneur, Serge Chosy, et seulement Offenbach.
Oui, voilà, c'est nouveau, c'est intéressant. Offenbach est un très riche musicien, hein, donc très bien.
Et je trouve que ces airs d'opérette pour Noël, c'est très bien aussi.
Ah, bah tout à fait.
Voilà, on parle d'air entraînant. Enfin, vous êtes une habituée des concerts de Noël, Anne-Marie.
Oui, il y en a toujours plein, mais celui du chœur du Capitole est toujours très attendu, l'occasion de réentendre ce magnifique chœur dans des répertoires un peu différents que l'opéra, donc c'est toujours un moment très attendu et le public est en général au rendez-vous.
Voilà, air d'opérette d'Offenbach et des chants traditionnels de Noël du monde entier, cela va de soi. Et puis ce même samedi 7 décembre, il y a beaucoup de choses samedi, hein. Il y a le concert des Sacboutiers et de la Maîtrise de Toulouse à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est pour fêter la sortie d'un CD.
Alors en fait oui, ils vont célébrer la sortie de cet album qu'ils ont enregistré autour des musiques pour les funérailles royales espagnoles. C'est un concert qu'ils avaient donné au musée des Augustins il y a quelque temps et donc qui a été enregistré à cette occasion-là. Et donc pour célébrer cette parution, ils donnent un concert mais sur un tout autre programme, un programme autour de Noël également qui s'ouvre sur des Ceremony of Carols de Britten. Il y aura du chant grégorien et puis des œuvres de Swilling, Pretorius, Gabrielli et Scheidt. Donc vraiment un concert très varié. Entrée libre dans la mesure
des places disponibles,
comme on dit toujours, puisque c'est à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines, donc il vaut mieux arriver tôt si on veut avoir des places.
Il commencera à
20h.
Voilà, 20h, Saint-Pierre des Cuisines, les Sacboutiers et la Maîtrise de Toulouse, le samedi 7 décembre, et à la même heure, ce même samedi 7 décembre, mais à la Lograin, concert de l'Orchestre National du Capitole, avec le pianiste Lucas Debargue. Quel est le programme, Serge ?
Alors, on programme en deux temps, avec le premier concerto pour piano et orchestre de Liszt, le concerto en mi bémol majeur, œuvre très fulgurante, hein, très virtuose, avec ce jeune pianiste qui, je le rappelle, a eu le 4e prix de la 15e édition du concours Tchaïkovski à Moscou. Et ça a été le seul candidat, toutes disciplines confondues, à recevoir le prix spécial de la critique musicale à Moscou. Donc c'est vraiment un grand pianiste qu'on a déjà vu à Toulouse, hein,
oui.
Notamment piano jacobin.
Et aussi avec le Capitole, il avait joué le concerto en sol de Ravel il y a
exactement.
Deux ans, je crois.
Oui, oui, un très beau musicien. Et en deuxième partie, on entendra Dougan Sokiev diriger la 8e symphonie de Shostakovich, une œuvre avec laquelle il a des affinités incroyables. Hein, donc cette symphonie qui traduit un peu la terrible tragédie de la guerre, je mets des guillemets, c'est lui-même qui le dit, qui a été composé en 1943 au moment du siège de Stalingrad par l'armée allemande. Donc c'est une œuvre extraordinaire, hein. Pas très gaie évidemment, mais très forte, très intense.
Et ce même Tougan Sokiev, jeudi 12 et vendredi 13 décembre, toujours à 20h, toujours à la Logan, et bien il va faire son cinéma. Il fait du cinéma, Tougan Sokiev, c'est pas son genre.
Mais c'est un grand amateur de cinéma et de musique de film. Et il fait depuis quelque temps, chaque année, un concert sur des musiques de film. Donc il aime beaucoup ça. Et le public aussi est ravi. Ah
bah c'est plein à chaque fois.
Ah oui, 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 absolument.
Celui de l'an dernier qui était dédié à Star Wars, c'était archi plein. Alors, les musiques de films cette année, on retrouve John Williams, il y aura encore un peu de Star Wars, mais il y a beaucoup d'autres choses. Alors j'ai vu, il y a du Ennio Morricone, il y a du Hans Zimmer, et pour les titres de films, il y a Titanic, il y a Mission Impossible, il y a Indiana Jones, il y a Jurassic Park, il y a E.T., il y a Retour vers le futur. Alors je peux vous dire qu'il y en a une litanie, donc ça va être aussi très varié, des ambiances très différentes, et je pense que tous les fans de cinéma, et là notamment de cinéma américain, faut bien le dire, devraient s'y retrouver. Allez, encore un peu de musique avant de terminer cette émission. Un extrait de la 8e symphonie de Shostakovich, interprété par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Tougan Sokiev. Extrait de la 8e symphonie de Dimitri Shostakovich, interprété par l'Orchestre National du Capitole sous la baguette de Tougan Sokiev. Alors que nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Mélomanie, il est temps pour moi de remercier ceux qui y ont participé. Merci donc aux fidèles Anne-Marie Chouchon et Serge Ozy, et grand merci à Gérard Caragosian d'avoir été notre invité et de nous avoir présenté le beau concert qu'il organise avec l'Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées, dimanche 15 décembre à 19h à la Logrin. Un concert caritatif avec du classique, du jazz et des musiques traditionnelles de l'Est, le tout interprété par de grands musiciens. C'est vraiment une très belle soirée musicale qui s'annonce, alors ne ratez pas l'occasion. Je vous invite à réserver vos places sur le site www.guyanc.festic.net. Guyanc, ça s'écrit G-U-I-A-N-K. guyanc.festic.net. Les Sacboutiers et la Maîtrise de Toulouse donnent donc leur concert samedi 7 décembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines et l'entrée est libre. Pour les concerts de Noël du Chœur du Capitole, c'est samedi 7 décembre à 20h et dimanche 8 à 16h au Théâtre du Capitole. Vous pouvez vous informer, réserver et acheter vos places sur le site www.theatreducapitole.fr. En ce qui concerne les concerts de l'Orchestre National du Capitole, ce samedi 7 décembre à 20h avec Lucas Debargue et jeudi 12 et vendredi 13 décembre à 20h pour Tougan Sokiev et son cinéma, les deux à la Logrin. Renseignements et réservations sur le site www.onct.toulouse.fr. Et puis je rappelle le deuxième rendez-vous de la saison des Arts Renaissants, mardi 10 décembre à 20h30 avec le concert de l'ensemble Il Giardino Armonico à l'église Saint-Jérôme, un programme Vivaldi Albinoni Merula dont vous pouvez trouver le détail et pour lequel vous pouvez réserver vos places sur le site www.art-renaissant.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui comme d'habitude sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles et excellente semaine musicale à tous.